Donc, bienvenue dans le cours « La Bible, livre humain ou divin ». On est rendu à la leçon 6. Comme je l'avais mentionné au début du cours, mais en fait, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, le cours, la manière que le cours est monté, c'est que pendant la première moitié du cours environ, on regarde la Bible dans une perspective chrétienne, c'est-à-dire que je ne cherche pas à défendre les Écritures, je cherche davantage à regarder avec vous qu'est-ce que les Écritures disent sur elles-mêmes. D'accord? Comment est-ce qu'un chrétien voit la Bible? Puis dans une deuxième partie du cours, c'est-à-dire en principe à compter de la semaine prochaine, on va commencer davantage à aller vers, vers la défense un peu de... On va adresser dans le fond 8 questions qui sont très communes, qu'on entend régulièrement, des questions qui cherchent à remettre en question la validité ou l'autorité des Écritures. C'est bon? Donc, je m'appelle Yannick Étier, on est à la leçon 6. Si vous avez besoin de vous rattraper, vous pouvez aller écouter toutes les pistes audio sur le site web. Vous allez trouver ça là. Les notes de cours aussi sont là. Vous pouvez prendre des copies des notes de cours en entrant sur la petite table et inscrire votre nom, adresse courriel, sur le calepin qui est là pour recevoir les notes le vendredi, si ça vous tente de regarder ça à l'avance. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, nous sommes assemblés dans ta sainte présence, Seigneur, pour t'adorer, pour venir se placer sous le ministère de ta parole et de ton esprit, Seigneur, afin que tu nous instruises, que tu nous éclaires. Et ce matin, tout spécialement, alors qu'on va regarder comment toi, Seigneur Jésus, tu vois les Écritures, je te prie, Seigneur, de venir nous convaincre. Convaincre, Seigneur, de voir la parole comme toi tu la vois. Convaincre, Seigneur, de marcher à sa lumière comme tu marchais à sa lumière. Convaincre de croire dans ses promesses comme tu croyais dans ses promesses dans ton ministère ici-bas. Je te demande de nous bénir ensemble. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, ce matin, la Bible indestructible du Christ. Ce matin, on va chercher à répondre à une seule question. Pendant toute la leçon, qu'est-ce que Jésus croyait sur la Bible? D'accord? C'est la seule et unique question à laquelle on va chercher à répondre ce matin. Comment est-ce que Jésus voyait ce livre-là? Maintenant, évidemment, si on parle de Jésus, on parle du Nouveau Testament? Non? On parle de l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament n'est pas écrit encore. D'accord? Alors, évidemment, lorsqu'on parle de comment Jésus voyait la Bible à son époque, dans son ministère terrestre, évidemment, le Nouveau Testament n'est pas rédigé encore, d'accord? Mais il parle des Écritures. Et donc, on va chercher à répondre à cette question-là. C'est pertinent parce qu'on est des chrétiens. Oui? Camille pose la question si après, lors de l'apparition de Jésus à Paul, si on aurait un indice d'une confirmation du Nouveau Testament par Jésus. Moi, je te dirais plus dans l'Apocalypse qu'on en aurait. Plus dans l'Apocalypse qu'on en aurait probablement, mais il faudrait réfléchir. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans son ministère terrestre, dans les Évangiles, comment Jésus voit les Écritures. D'accord? Donc, évidemment, c'est avant la rédaction du Nouveau Testament, puisque toute la rédaction du Nouveau Testament suit son ministère terrestre, même son ascension. D'accord? C'est pertinent de regarder ça parce que, après tout, on est des chrétiens. Des chrétiens, c'est des disciples de Christ, n'est-ce pas? Donc, la moindre des choses, ce serait de se préoccuper de ce que notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître croyait dans son ministère terrestre, qu'il croit, comment il voit les Saintes Écritures. C'est la moindre des choses. Ça demeure pertinent aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que quand même pour la grande majorité des gens sur la terre, Jésus est au moins vu comme quelqu'un de sage. Il n'est pas vu comme quelqu'un d'insensé. Il est vu comme quelqu'un même de très, très sage. Même ceux qui attaquent beaucoup la validité des Écritures, qui remettent en question l'historicité des Écritures, qui essaient de sortir des Saintes Écritures, tout ce qu'il y a de miraculeux, de surnaturel, tout ça. Même dans leur cas, dans leur poursuite de ce qu'ils appellent le Jésus historique, il y a eu des écrits là-dessus, ils ont essayé de définir qui est ce personnage-là, une fois qu'on aurait enlevé tout ce que les chrétiens ont voulu ajouter pour l'embellir. Est-ce que vous me suivez? Imaginons que, ben, ils ont beurré épais parce qu'ils ont voulu faire une divinité de cet homme-là. D'accord? Il y en a qui voient comme ça le Nouveau Testament. Dans un sens, l'islam voit un petit peu le Nouveau Testament comme ça aussi. Puis toute la rédaction du Nouveau Testament comme ça aussi. Mais donc, même dans leur poursuite à ce moment-là du Jésus historique, d'accord, il y a encore un grand respect pour Jésus. Et pour un grand nombre de gens sur la terre, Jésus est vu quand même comme un prophète, même s'ils ne sont pas chrétiens. Donc, ça demeure pertinent dans une discussion avec un ami sur l'autorité des Écritures, juste de poser la question, juste pour le fun comme ça, tu sais-tu ce que Jésus pensait de la Bible? Jésus de Nazareth, est-ce que tu sais ce qu'il pensait? C'est quand même un homme sage. Ça pourrait être intéressant d'aller voir juste quelques phrases, qu'est-ce qu'il pensait de la Bible. Et donc, c'est une approche qui est pertinente dans tous les cas. C'est une question qui est utile de voir qu'est-ce que Jésus croyait de la Bible. Ce qu'on ne fera pas ce matin dans la leçon, c'est que je ne vais pas essayer d'expliquer comment Jésus interprète la Bible. Je ne sais pas si vous me suivez. Des fois, on lit les apôtres qui citent des psaumes, qui citent des livres prophétiques, des prophètes, puis on dit « Oh boy, une chance que je crois qu'il est inspiré du Saint-Esprit parce que j'aurais jamais deviné que le texte voulait dire ça facilement. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans votre lecture biblique. La même chose avec Jésus dans certains cas. OK? Et donc, ce matin, on ne va pas regarder comment Jésus interprétait la Bible ou comment Jésus utilisait la Bible. On va donner un exemple rapide, là, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de voir qu'est-ce que Jésus croyait sur la Bible. Ça va? Ce qui est quand même très utile pour nous. Alors, revenons au passage qui est au début de la page 1. Je vais juste vous le lire dans Jean 10, 35, 36. On va aller voir le contexte un peu, pourquoi est-ce que Jésus cite un passage de l'Ancien Testament. Mais voici ce qu'il dit. « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes? » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Alors, juste pour vous remettre dans le contexte, ce passage-là est tiré d'un évangile, l'évangile selon Jean. À ce moment-là, Jésus fait des déclarations sur son ministère, sur ce qu'il est, sa personne. Puis les Juifs, les autorités juives sont scandalisés et disent « Il se fait l'égal de Dieu ». Ils avaient quand même assez bien lu. Puis ils décident de le lapider pour ça. D'accord? Puis là, Jésus dit « Attendez un peu, là. Parce que je dis que je suis le Fils de Dieu, vous voulez me lapider. » Je pense qu'il va falloir que vous trouviez un meilleur chef d'accusation que ça, parce que vous-même, qui êtes juste des hommes, et même des rois corrompus, Dieu les a appelés fils de Dieu. Dans le psaume 82, en fait Dieu, il les a appelés des dieux. Jésus est en train de citer le psaume 82. Vous l'avez au bas de la page 1, là, je vous ai juste mis cette phrase-là, si vous voulez, vous pouvez aller voir le contexte. Mais c'est un psaume où... Dieu s'adresse aux autorités d'Israël à l'époque, qui sont des autorités corrompues, d'accord? Et puis, il prononce un jugement sur eux. Il leur dit, « Je vous avais élevés comme des dieux. Vous aviez autorité, mais vous n'avez pas été dignes de ça, et donc je vais vous anéantir. » Et c'est ça qu'il dit dans le psaume 82, d'accord? En somme, c'est à peu près ça. Puis dans le fond, Jésus, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit, « Attendez un peu, là. La parole de Dieu... » Dans l'Ancien Testament, dit de rois corrompus qu'ils sont des dieux. Puis moi, avec tout ce que j'ai fait, vous seriez offensés parce que je vous dis que je suis le Fils de Dieu. Dans le fond, Jésus joue une game avec eux. D'accord? Mais il faut se rappeler le contexte. C'est plus clair dans Matthieu. Il y a toute une phase de son ministère où Jésus ne révèle pas entièrement qui il est. Si vous êtes familier un petit peu avec les évangiles, là, Jésus garde dans un certain sens secret sa personne, son ministère, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où ça doit se réaliser, où il va être livré à ce moment-là. Et donc, la révélation est comme subtile, à mots couverts, un peu tout le long. Et tout ce que Jésus fait avec ce psaume-là, c'est qu'il leur dit non quand même. Si vraiment vous prenez offense que je dise être le Fils de Dieu, après tous les miracles que j'ai faits, toute la sagesse que j'ai manifestée, je pense qu'en regardant le psaume 82, vous devriez voir que Dieu a déjà... présenter des gens corrompus comme des dieux, puis il faisait référence à leur autorité. Dans le fond, Jésus a juste dit, ben, comme il l'a fait à plusieurs reprises, d'accord? Ils viennent avec une accusation, puis là, nous, comme lecteurs chrétiens, on voudrait que, dis-les que t'es Dieu, le Fils, vas-y! Mais c'est pas le moment où il va se révéler. Alors, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait vraiment une manœuvre très, très sage, là, super efficace. Il leur ferme la bouche, puis il s'en va. Il va revenir plus tard, se faire connaître. Et c'est tout ce qu'il fait ici. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage-là, je vous rappelle que toute la première partie du cours est basée sur un livre de Kevin DeYoung. J'aime vraiment ce que Kevin fait en relevant ce passage-là. Ce qui va nous intéresser, nous, dans le passage, c'est un tout petit bout de la phrase. Si l'Écriture ne peut être anéantie. Je vais juste vous relire tout le passage. Dans Jean 10, 35, 36. « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Donc, ce qui m'intéresse, c'est le tout petit bout de phrase lorsque Jésus dit, « Et si l'Écriture ne peut être anéantie. » Avec ce passage-là, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est que Jésus voyait l'Ancien Testament, voyait la Bible, comme tous les Juifs de son époque. C'était jamais remis en question. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que chacun des mots sont la parole de Dieu? Est-ce que ça a entièrement autorité? Jésus est en train de se faire attaquer, ils veulent le coincer pour le mettre à mort, le lapider. Il s'en va citer un psaume obscur, le psaume 82, avec une toute petite phrase. Puis il dit, voici ce que la parole de Dieu dit. La discussion s'arrête là. Il ne va pas dans des grandes révélations théologiques. Il fait juste citer la parole de Dieu. L'argument est clair. Ça vient de s'arrêter là. Donc Jésus voyait l'Ancien Testament comme les Juifs de son époque. Leur théologie, leur doctrine des Saintes Écritures était la même que Jésus. Jésus sait, il prend pour acquis. Il dit quelque chose. Il dit, et si l'Écriture ne peut être anéantie? Si l'Écriture ne peut être détruite? Le mot qu'il y a là, si vous allez dans mes notes à la page 2, au milieu de la page 2, là, vous me pardonnerez là, de jouer au spécialiste avec un petit mot grec, là, mais c'est parce qu'on va y revenir, d'accord? Au milieu de la page 2, voici le mot « anéanti » que nous trouvons dans ce passage. C'est « luo », les trois lettres qu'il y a là. Ceux qui ont fait votre grec classique un peu, vous reconnaissez ça, ça va? « Luo », ça veut dire « détruire ou réduire quelque chose en ruine par la démolition ou la rupture de pièces, détruire, démolir, briser en morceaux. » D'accord? Et donc, Jésus, son argument, c'est simplement, attendez un petit peu. Si la Bible dit, vous êtes des dieux, et que la Bible ne peut être détruite, réduite en morceaux, défaite, anéantie. Mais voilà pourquoi est-ce que vous en prenez à moi qui ai fait ça, ça, ça. Et donc, Jésus est juste en train d'affirmer ce que tous les Juifs de l'époque croyaient, c'est que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, entièrement, qu'on ne peut pas la modifier, qu'on ne peut pas en retirer rien, qu'elle va garder autorité jusqu'à la fin. Elle ne peut être détruite. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? C'est assez clair? Et donc, ça, c'est la vision que Jésus a de la Bible. Jésus affirme ainsi que la Bible ne peut être falsifiée ou brisée, aucune de ses promesses ne serait manquée de se réaliser, aucune de ses déclarations ne peut être trouvée erronée. Je cite ici Kevin DeYoung. Jésus, tout comme son auditoire juif, croyait que l'Écriture est la parole de Dieu, et pour ces raisons, ce serait un grand, et que pour ces raisons, ce serait un grand manque de piété que de penser qu'une parole quelconque de Dieu, ou écrite de Dieu, puisse être erronée, fausse ou brisée. Faux ou brisée. Donc, toute la vision très moderne de la Bible qui dit, bon, ben faut en prendre puis en laisser à travers les siècles, ça a été modifié, il y a sûrement des erreurs qui se sont glissées dans ça. Pour un juif de l'époque, c'est de l'impiété de penser comme ça. C'est vraiment blasphématoire de penser comme ça. Et pour Jésus aussi. Jésus serait ici aujourd'hui à notre époque, il écouterait tout le débat sur ça, puis il dirait, c'est incroyable, vous ne réalisez pas, c'est la parole de Dieu, elle ne peut être anéantie. Et donc, c'est ce qu'on voit avec ce premier passage. Un autre passage que vous auriez peut-être pensé par vous-même, même plus approprié, c'est dans Matthieu. Donc, on n'avance ni un iota, ni un trait de lettre. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Un iota, c'est le plus petit point en grec. « Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Lorsqu'il dit « supprimer », si vous regardez dans le passage, et on l'a souligné dans les notes au bas de la page 2, c'est le même mot « luo » qu'on trouve là. Le même mot qu'on avait avant dans Jean. D'accord? Et donc, Jésus est en train de dire « si quelqu'un en venait à vouloir anéantir, rejeter, falsifier le plus petit élément des Saintes Écritures, il ne pourrait pas être plus grand que le plus petit dans le royaume des cieux. » Je trouve qu'il est encore généreux, tant qu'à moi. Mais c'est Jésus, fait que je n'ai pas discuté avec lui. Jésus avertit sévèrement qu'aucun trait de lettre, même la plus petite partie écrite, un point ne doit être renié, supprimé, falsifié, car tous sont inspirés de Dieu. Fait qu'un des éléments que ce passage-là nous ajoute, c'est non seulement que la parole de Dieu ne peut être anéantie, mais la parole écrite de Dieu. D'accord? Il dit, ni un point, ni un trait de lettre. On n'est plus dans la parole seulement verbale, on est clairement dans la parole écrite. Donc, Jésus est en train de dire, les rouleaux sacrés qu'on rouvre à chaque samedi dans les synagogues, c'est parole de Dieu. Et qui que ce soit qui vient et qui dit, ouais, mais ça ici, c'est plus bon. Ça ne marche pas. Ça, c'est important de le saisir parce que Jésus vient, il nous éclaire sur la loi, il nous éclaire sur la Bible, il nous aide à comprendre des choses, il vient clarifier, il vient rectifier notre compréhension de certains passages. Pensez par exemple à l'usage que les docteurs de la loi faisaient de la loi de Moïse sur le divorce, d'accord? Puis Jésus vient vraiment rectifier tout ça, la compréhension du sabbat qui s'accomplit en lui. Donc il y a beaucoup de choses que Jésus vient changer dans notre compréhension. Mais Jésus affirme constamment, je ne suis pas venu abolir quoi que ce soit, je ne suis pas venu nier quoi que ce soit, je ne suis pas en train d'invalider quoi que ce soit. J'éclaire, j'enseigne, j'instruis, j'accomplis. C'est ça que je suis venu faire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, je vais juste vous apporter ça pour l'enregistrement.
Est-ce que la traduction de la Bible dans diverses langues ne pourrait pas parfois changer le sens de ce qui était écrit à l'origine, puisque il y a plusieurs langues dans le monde et certains mots ne disent pas forcément la même chose?
Oui, absolument. C'est une super bonne question. Donc, évidemment, lorsqu'on dit que le texte est inspiré, on parle du texte dans la langue originale. Là, on va dans toute la question de la conservation des Écritures aussi, des manuscrits, qui est un autre sujet, mais la question est très bonne. Alors oui, Jésus est en train de dire que le texte original est inspiré, ça c'est clair. Ça nous demande à nous, admettons, puis à chacun d'entre vous qui étudiez la Bible aujourd'hui en français, votre grec est assez moyen, pour ne pas dire nul. Bon, bien, le mien n'est pas non plus top-notch, il n'est pas super extraordinaire, d'accord? Ça me demande d'aller regarder, dans mon cas, d'aller regarder le grec, d'aller regarder les commentaires bibliques, d'aller regarder différentes traductions. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans ce temps-là, on va aller voir différentes traductions en français, par exemple, d'accord? Mais oui, ça pose la question, si j'ai une décision de vie et de mort à prendre sur un texte biblique, c'est bon que j'apprenne à étudier la Bible. C'est bon que j'apprenne à connaître les outils qu'on a, parce qu'on a des outils absolument extraordinaires à la portée de tout le monde ici pour se rapprocher le plus possible du texte original, d'accord? Parce que vous allez trouver des commentaires accessibles qui vont commenter le grec, admettons, commenter l'araméen, commenter l'hébreu, d'accord? Puis ils vont émettre des commentaires sur ça qui va nous permettre de voir des nuances. Mais c'est une bonne question. Tout à l'heure, dans le message, pendant l'exposé biblique, je devrais mentionner justement que dans certaines de nos traductions en français, il y a une subtilité dans l'usage que l'auteur fait d'une phrase, de quelques mots, qui n'apparaît pas dans certaines traductions puis qui apparaît mieux dans d'autres. Puis je vais citer l'autre passage, si j'y pense. Je vais citer l'autre passage, d'accord, qui est dans la colombe. La colombe est souvent plus juste dans sa traduction, moins poétique, mais plus juste dans sa traduction qu'admettons, moi, celle que j'utilise toujours, qui est la Louis II 1910 ou 79, d'accord? Je me suis converti avec ça, fait que dans ma tête, je connais partout où sont les versets, à gauche, à droite, dans ma Bible, tout ça. Il n'est pas question que je change ça avant de mourir. Mais quand je vais étudier, je m'en vais voir d'autres traductions. Il faut dire, ah, tu vois ici, il y a une subtilité qui n'était pas sortie. Là, lui vient de la rendre. Et donc, on apprend à étudier comme ça. Mais effectivement, c'est le passage qui est, le texte qui est inspiré, c'est le texte original. Ça répond à votre question? Super. Laissez-moi voir s'il manque quelque chose. Au haut de la page 3, il serait difficile de trouver une déclaration plus claire. Citation de Kevin DeYoung. Il serait difficile de trouver une déclaration plus claire et complète de la confiance des Écritures, de la confiance dans les Écritures que celle exprimée ici par Jésus. Ainsi, bien que Jésus a de nombreuses reprises éclairer notre compréhension de la parole de Dieu, jamais il ne la renie ou la contredit. Au contraire, il reconnaît sa complète autorité. Puis en fait, des fois, ce qui va faire que certaines personnes vont se méprendre sur la vision que Jésus avait à l'époque dans son ministère terrestre de la Bible, c'est qu'ils vont voir justement que Jésus va dire « Il a été écrit, mais moi je vous dis ». Ils vont dire, ah, tu vois, Jésus est en train de dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Voyez-le comme ça. Vous connaissez l'expression « l'esprit de la loi puis la lettre de la loi » ? Vous connaissez cette expression-là ? Obéir à l'esprit de la loi, c'est comprendre à quoi, dans quelle idée ça a été conçu cette loi-là puis à quoi ça devait servir. Puis la lettre de la loi, ben, c'est au mot à mot. D'accord? Donc, par exemple... C'est écrit 100 km/h sur l'autoroute, je roule à 100 km/h, mais mon épouse à côté de moi est en train d'agoniser. Bien, on n'accélérera pas, n'est-ce pas? Ben, l'esprit de la loi, ce n'est pas que tu n'accélères pas s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir et tu es à 5 minutes de l'hôpital. Si tu pèses sur le gaz, ça, c'est l'esprit de la loi. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il nous dit vous obéissez à la loi et à l'esprit de la loi. L'erreur qu'on fait, nous, c'est de vouloir aborder ça et dire Jésus est venu nous dire d'obéir à l'esprit de la loi, pas à la loi. C'est pas vrai. Va plus loin que ça. Toute la discussion sur les offrandes, la dîme et tout ça, là, jamais vous allez voir Jésus qui dit non, donnez pas votre dîme. Non, il dit donnez votre dîme de toutes les épices puis tout ça. Ça, c'est super. Mais comprenez que votre première responsabilité, c'est de prendre soin de vos parents. C'est ça qu'il fait. Il dit pas ah, parce que tu as décidé de prendre soin de tes parents, tu n'es plus tenu de ça, ou parce que tu as décidé de tenir ta dîme, tu n'es plus tenu de prendre soin de tes parents. Fait que Jésus, dans le fond, dit à ses disciples, honorer la loi, la lettre de la loi, puis l'esprit de la loi. Pas un ou l'autre. On joue souvent cette espèce de petit jeu-là dans notre tête à nous pour se simplifier un petit peu la vie. On dit, ah, mais moi, c'est l'esprit. C'est l'esprit de ça que je veux respecter. Mais tu ne le vois pas, ça, dans la vie de Jésus. Fait que des fois, oui, il vient éclairer notre compréhension. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Des réactions? C'est bon? Super. Une histoire historique. Là, ça devient vraiment tricky. Jésus croyait vraiment que l'Ancien Testament était une histoire historique. Que ce n'était pas un conte pour enfants, que ce n'était pas des fables, que ce n'était pas des belles histoires pour nous faire comprendre des choses sur la vie. Parfois, il y en a. Jésus le faisait lui-même souvent. Comment est-ce qu'on appelle ça, ce qu'il faisait souvent? Il enseignait en parabole. D'accord? Puis il faut discerner. Est-ce que c'est une parabole? Lui est en train de parler de quelqu'un. Des fois, on a des petites colles. Lazare et le mauvais riche. Oh, OK. Là, il nous donne un nom. On n'est peut-être pas dans une parabole. C'est mêlant. Mais donc, Jésus, pour Jésus, les histoires, toutes les belles histoires de l'Ancien Testament avec un gros poisson qui avale un petit monsieur, par exemple, c'est historique. C'est historique pour Jésus. Fatiguant, ça, à notre époque, d'aller défendre ça. Hein? Regardez le passage dans Matthieu 12, 38 à 42. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il en avait fait comme 4372, mais il aurait aimé ça. T'sais. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Quand je vous dis que des fois, il parlait de manière obscure, sur son ministère, c'en est une belle. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Évidemment, il y a Jésus, le Fils de Dieu. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Parce qu'il y a Jésus. Plusieurs observations sur ce texte-là. Jésus a une confiance absolue dans l'historicité de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas en train de dire, par exemple, vous vous rappelez le conte, la fable dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a un petit monsieur, un prophète qui était rebelle et qui se fait avaler par un gros poisson? C'était une image. C'est une image pour illustrer le fait qu'un jour, le Fils de Dieu allait venir, puis allait lui-même mourir sur une croix, être mis en terre 3 jours, ressusciter le troisième. En fait, si Jésus est en train de dire que l'histoire de Jonas, c'était une fable, c'était un conte pour annoncer quelque chose, mais on pourrait peut-être penser, avec les théologiens libéraux, que la mort et la résurrection de Jésus aussi, c'est une fable, qu'il y a une leçon spirituelle. On doit tous naître de nouveau, repartir dans la vie, recommencer notre vie, trouver en Jésus le sens de l'amour. Jésus n'est pas vraiment mort, puis il n'est pas vraiment ressuscité. Jonas n'a pas vraiment été avalé, puis il n'est pas vraiment sorti. Ce n'est pas ça l'argument de Jésus ici. Ce n'est pas du tout ça l'argument de Jésus. Et c'est très clair. Donc Jésus est en train d'enseigner sur sa mort et sur sa résurrection en faisant référence à un conte de fées. Il est en train de faire référence à de l'histoire. Surnaturel, on s'entend, mais il prétend aussi qu'il va ressusciter d'entre les morts. Ça relève quand même beaucoup du surnaturel aussi. Alors voyez-vous, Jésus regardait l'Ancien Testament comme un livre historique, comme des histoires historiques, pas des histoires pour enfants. Avez-vous des questions sur ça? Commentaires? Oui, Sam, juste une seconde.
Peut-être un autre passage qui montre que Jésus croyait vraiment à toutes les histoires de l'Ancien Testament comme étant historiques. C'est dans Matthieu 23, au verset 35, quand il accuse les pharisiens, puis il jette une genre de grosse condamnation sur eux autres, il dit « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Et dans la Bible juive, le premier meurtre qui avait eu lieu, c'était Abel. Et le dernier, dans deux chroniques, c'était Zacharie. Mm-hmm. Justement, fait, d'une certaine manière, Jésus est en train de dire, vous voyez, tout le sang, là, tous les meurtres qu'il y a eu dans l'histoire, là, ça va retomber sur vous. Fait que d'un certain sens, il affirmait qu'il croyait vraiment que l'histoire de l'Ancien Testament était l'histoire réelle qui s'était passée.
Oui, absolument. Dans le passage même où est-ce qu'on est actuellement, non seulement ça... Mais si Jésus est en train de dire que c'est des histoires, des contes pour enfants, pourquoi est-ce qu'il dit, il fait référence au jugement dernier, là, d'accord? Je suis au milieu de ma citation dans Matthieu 12, là. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Alors, est-ce que les hommes de Ninive vont exister ou non? Peut-être finalement qu'ils n'ont pas existé non plus, ces gens-là. Peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de jugement. Non, Jésus est en, pour lui, tout ça, c'est de l'histoire. Puis il nous parle non seulement de l'histoire passée, mais de l'histoire à venir. D'accord? Donc, aux yeux de Jésus, chaque fois que vous entendez Jésus citer l'Ancien Testament, lorsqu'il fait référence à des personnages historiques de l'Ancien Testament, clairement, il fait référence à eux comme des gens qui ont existé. Lorsqu'il cite des miracles de l'Ancien Testament, il fait référence à cela comme quelque chose qui s'est produit, qui s'est accompli. Pour Jésus, toutes les choses surnaturelles de l'Ancien Testament étaient historiques. Donc, c'est non seulement qu'il dit il ne faut pas modifier, altérer, falsifier, rejeter les enseignements de l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament pour en respecter toujours tous les préceptes. Non seulement cela, mais pour lui, c'est factuel l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est surnaturel. Bon, Jésus faisait des miracles à tour de bras. Il n'y avait pas beaucoup de difficultés avec le surnaturel. D'accord? Mais donc, c'est sa vision qu'il avait de l'Ancien Testament. La reine du Midi, c'est la reine qui est venue rencontrer Salomon pour voir sa richesse. Les gens de Ninive, ils parlent du jugement à venir. Alors, un petit peu dans le même sens de ce que Samuel vient de relever, si vous allez au dernier paragraphe de la page 3, « Ainsi, dans les évangiles, nous voyons se référer. Nous voyons Jésus se référer à Abel, Noé, Abraham, Sodome et Gomorre, Isaac, Jacob, la manne du désert, le serpent dans le désert, Moïse, David et Salomon, la reine du Midi, Élie, Élisée, la veuve de Sarepta, Naaman, Zacharie, Jonas, sans jamais que Jésus remette en question un seul des miracles qu'on trouve dans toutes ces histoires-là, ou l'historicité de ces histoires-là. Oui, juste une seconde. Oui. Fais juste me la dire là-dedans, s'il te plaît.
Est-ce que c'est Jésus qui affirme la création quand il dit de même que le Père, en six jours, a créé le monde et le septième jour, il s'est reposé? Est-ce que c'est Jésus qui dit ça ou c'est
Bonne
Paul?
Question. Y a-t-il quelqu'un qui a meilleure mémoire que moi?
Parce qu'en disant ça, là, il y a quelqu'un quelque part dans le Nouveau Testament qui affirme que la création a bel et bien eu lieu en six jours. Ouais, mais ouais. Je ne me rappelle pas si c'est Jésus qui l'a dit ou
Bonne
c'est
question.
Dans les lettres.
Bonne question. Je n'ai pas un jeu blanc. Si quelqu'un le trouve, me dire. Oui, merci. On met un comité là-dessus puis on te revient, Louise. Nos spécialistes sont là-dessus à l'instant. Donc, à la page 4, est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires jusqu'à date? Ça va? C'est quand même un argument important. Hein? C'est important dans nos vies à nous. C'est important de communiquer ça à nos enfants. Mais je crois vraiment profondément que les gens ont un respect pour Jésus. Puis c'est une belle manière d'aborder la question des fois. Comme je vous dis souvent en apologétique, là, je vais te passer le micro, mais je vais juste terminer mon idée. Comme je dis souvent en apologétique, on passe souvent, apologétique c'est la défense de la foi, on passe souvent beaucoup de temps à élaborer des grands arguments pour contrecarrer des fois les questions des gens. Il ne faut jamais oublier de les présenter à Jésus. Il ne faut jamais oublier à un certain moment donné, là, c'est pas seulement la raison qui fait le travail, hein, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils aient rencontré Jésus. On avait une situation que je suis sur une équipe de pasteurs j'ai le privilège de faire partie d'une équipe de pasteurs à l'international où on se parle aux deux mois. Puis il y a des gars vraiment partout dans le monde. C'est vraiment une grâce qu'on m'a faite. On passe une heure ensemble au téléphone, puis à chaque fois, il y a un des pasteurs qui soulève une question. Il soulève une question pratique, pastorale, puis tous les autres gars disent, « Gars, moi, je te conseillerais de regarder ça, ça, ça. » Toujours une question pastorale, puis on se conseille les uns les autres. Puis là, il y avait un monsieur, un pasteur qui arrive avec une question sur... un homme qui a fait profession de foi, il est venu à l'église, finalement, il a abandonné l'église, il est allé avec une jeune femme qui avait des problèmes de consommation de drogue, il lui a fait un enfant, puis là, après ça, il a décidé qu'il se repentait de sa vie de péché, puis là, il revenait à l'église, il a abandonné la femme avec l'enfant, puis tout ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis là, on a tous donné nos conseils tour à tour, mais plusieurs des pasteurs ont dit, « Oui, mais attends un petit peu. Il faut parler avec ce jeune homme-là puis lui dire quelle sorte de Christ t'a fait connaître à cette femme-là puis quelle sorte de Christ tu vas lui faire connaître si tu fais juste fuir tes responsabilités. D'accord? Donc, dans la défense de la foi, régulièrement, il faut aller présenter les gens à Jésus-Christ. Et moi, je trouve que d'arriver avec cette question-là puis dire, juste pour le fun comme ça, depuis tantôt, on parle de la Bible, tu voudrais-tu savoir ce que Jésus pensait de la Bible? Comment Jésus voyait la Bible? Et on s'en va vers ces passages-là. Oui, c'était Louis ou David.
Et en fait, ma question, c'est, dès que je suis commencé à témoigner sa personne avec les exemples de l'Ancien Testament, qui lui savait qu'il était des récits historiques, des vrais moments de l'Ancien Testament, les Juifs seulement pour lui déranger ou pour essayer de faire les contrats, est-ce qu'il disait que ces événements de l'Ancien Testament avaient été... comme lui disait, des vrais récits historiques ou des fois, comme tantôt tu avais dit, des fabules, des choses, ou accepter ça même avec Jésus?
Oui, bonne question. Bonne question, Louis. Oui, à l'époque, là, c'était pas une question pour aucun juif. Donc, lorsque Jésus fait ça, il n'y a pas à débattre avec eux à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Pour eux, c'est clair. pour les Juifs de l'époque. Dans le fond, Jésus là, avait exactement la même théologie sur l'inspiration des Écritures que les Juifs de son époque. Donc, quand lui les cite, c'est un argument simple. Il dit, mais regardez ce qu'il y en a avec Jonas. La difficulté, c'était, pour eux, c'était plus de comprendre de quoi tu parles. Jonas est avalé, OK, c'est cool. Ça, on le sait, mais qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu vas aller dans le vent de la terre. Donc, à l'époque, ce n'était pas une question. C'est ça. Une idée en théologie, là. Tiens, je vais faire juste une petite parenthèse, 2 secondes. Des fois, vous pouvez avoir l'impression qu'avec les credos de foi, avec les confessions de foi, avec les livres de théologie, c'est beaucoup, c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'on doit écrire une confession de foi alors qu'on a déjà la Bible? Tu sais, la Bible, elle contient tout ce qu'on croit, pourquoi on devrait le résumer là? À travers l'histoire, la théologie a beaucoup été développée pour venir répondre à des fausses compréhensions, des fausses doctrines concernant les Écritures. Donc, à l'époque de Jésus, faire la défense qu'on fait ce matin sur la validité des Écritures à partir de la manière que Jésus voyait la Bible, c'était complètement inutile. Tout ce volet-là de la théologie de l'inspiration des Écritures, il n'y avait rien d'écrit là-dessus. Tu n'avais pas besoin d'écrire rien là-dessus. C'est juste avec l'humanisme que ça a commencé tout ça. C'est juste avec l'époque des Lumières. Avant l'époque des Lumières, tu citais la Bible. Je veux dire, c'est clair, tu venais de faire une déclaration scientifique sine qua non, de citer la Bible. D'accord? Mais c'est vraiment avec l'avènement de l'époque des Lumières, où on a commencé à remettre en question avec l'approche rationaliste, Descartes, un des premiers là-dedans, qui a ouvert la vague, qui a parti le mouvement. Donc, tout ce volet-là, cet aspect-là de la théologie, vous ne trouverez pas ça dans la littérature avant l'époque des Lumières, avant toute cette époque-là. Est-ce que ça est clair, Louis? Oui. Donc, c'est ça. Puis en théologie, quand vous voyez qu'on a beaucoup d'écrits, on a des confessions de foi, c'est parce qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a quelqu'un qui est parti sur une chire. Je m'excuse de le dire comme ça. Quelqu'un qui a dérapé, qui a sorti une fausse doctrine. Il est parti avec ça. Je viens à toi, Camille, ce sera pas long. Il est parti avec ça, puis on a répondu. On est allé vers les Écritures, puis on a pris le temps, en quelques phrases, en quelques pages de résumé. Oui?
Ce que tu dis a été quand même prophétisé aussi, que dans les derniers jours, les hommes seront irreligieux et tout ça. Absolument. Donc, ça fait partie de tout ça.
Oui.
Le fait qu'on remette en question des choses qui étaient claires pour Jésus.
Oui. Mais déjà, à l'époque, là, Louis m'a posé la question pour les Juifs. Si je sors du monde juif à l'époque, oups, les Écritures n'ont pas exactement la même autorité pour tout le monde. D'accord? Par exemple, lorsque je m'en vais dans l'Empire romain, pour les Romains, ben un dieu, ça existe, mais c'est un petit peu une farce aussi. Les dieux sont là pour illustrer tous les travers de l'humanité. Tu sais? Fait que déjà, tu en prends puis tu en laisses un peu avec les dieux. Fait que la vision est différente. Mais chez les Juifs, c'était pas une question du tout. Ça va? Un dernier passage ensemble ce matin dans Matthieu 19, 4 et 5. En réponse à une question qui lui fut posée par les pharisiens sur le divorce, Jésus a répondu. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Plusieurs d'entre nous, on est familier avec ce passage-là, d'accord? On est à l'aise avec ça. Maintenant, on va aller lire le passage dans Genèse 2, juste pour donner le contexte un peu plus. Genèse 2, 21 à 25. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » C'est intéressant lorsque Jésus cite ce passage-là de Genèse, lorsqu'il le cite dans Matthieu, voici comment lui l'introduit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit? Maintenant, dans le passage qu'on a cité dans Genèse, vous avez vos notes avec vous? Regardez dans le passage. Où est-ce que c'est écrit que c'est Dieu qui dit ça dans le passage, dans Genèse 2? Pardon? Moïse qui aurait rédigé ça. Oui, mais collez juste au texte, juste dans Genèse 2. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une côte, j'avance. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors ça peut être le narrateur qui parle, ça pourrait être Adam qui parle. Mais nulle part dans le passage, c'est écrit « l'Éternel dit » ou « Dieu dit ». On est familier avec plein de passages dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres de la Bible, où c'est Dieu qui parle, puis là, tu as les mots, là, tu sais, c'est plus juste qu'il est inspiré, c'est juste qu'il a pris des notes, attends un petit peu, il a juste écrit ce que Dieu est en train de dire. Ici, c'est pas écrit, ça. On a une narration. Est-ce que c'est Adam qui parle, ou c'est le narrateur qui prend le relève, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce que Jésus fait avec ce passage-là? Regardez encore dans Matthieu 19, 4 et 5. « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit? » C'est le Créateur qui a dit. Mais moi, dans mon texte, c'est le narrateur ou c'est Adam. Lui dit, c'est le Créateur qui l'a dit. Et donc, Jésus est en train de dire que tout l'Ancien Testament, toutes les Écritures, chaque fois qu'il y a un mot qui est écrit, c'est écrit, c'est Dieu qui l'a dit. C'est le Créateur qui l'a dit. Comme ça que Jésus voyait la Bible. Est-ce que c'est clair comme argument? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin qu'on clarifie ou ça va? Ou vous avez besoin d'un autre espresso? Vous pourrez prendre une course parce que pendant le sermon, ça va être long au matin. Là. Ça va? Donc, pour Jésus, il lit l'Ancien Testament, c'est toujours parole de Dieu. C'est toujours Dieu qui parle. Que ce soit Élie qui soit en train de parler au nom de Dieu, que ce soit David qui soit inspiré, que ce soit l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, ou scandale au scandale, que ce soit le Cantique des Cantiques qui parle de toutes sortes de choses. C'est Dieu qui parle, parce que c'est là, dans la parole de Dieu. Et pour Jésus, c'était absolument clair. Ça ne veut pas dire que c'est toujours clair pour nous ce qu'il dit, mais on sait que c'est lui qui parle. Jésus fait référence à ce passage en nous disant que le Créateur dit. J'aime bien la citation de Kevin DeYoung au milieu de la page 4. « Voilà l'essence même de la doctrine des Écritures selon Jésus-Christ et le fondement de toute compréhension véritable de la Bible. » Quand il y a un mot qui est écrit, quand il y a un point, quand il y a une virgule, c'est Dieu qui l'a mis là parce que c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est comme ça que Jésus voyait ça. Que ce soit un narrateur qui parle, que ce soit Adam, que ce soit un prophète, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un âne ou un serpent, c'est Dieu qui parle dans tous les cas. Voilà l'essence même de la doctrine des Écritures selon Jésus-Christ et le fondement de toute compréhension véritable de la Bible. Ainsi, pour Jésus, les auteurs humains de la Bible jouent en définitive un rôle de second plan derrière celui de l'Esprit de Dieu qui inspire la parole de Dieu. Alors, un autre exemple, il dit « David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit. » Et c'est comme ça que Paul va aborder les Écritures. C'est comme ça que les autres auteurs du Nouveau Testament vont aborder les Écritures. Ils citent l'Ancien Testament, puis pour eux, c'est Dieu qui est en train de parler par son esprit dans tous les cas. Le Saint-Esprit, Dieu, l'Écriture ne sont pas trois orateurs différents. Il s'agit en bout de ligne d'un seul et même auteur avec la même autorité divine. Et comme nous le rappelle Kevin DeYoung, c'est pour cette raison que Jésus peut chasser le diable en disant « Il est écrit ». Parce que pour Jésus, ça faisait entière autorité, complète autorité. Pour Jésus, l'Écriture sainte est puissante, décisive, autoritaire, parce qu'elle n'est rien de moins que la parole de Dieu. Jésus tenait la parole de Dieu dans la plus haute estime, il s'accrochait à ses promesses, il le citait pour chasser le diable, pour faire fuir le diable. Sa mission était d'accomplir les Saintes Écritures, d'éclairer les Saintes Écritures, d'enseigner les Saintes Écritures. Jésus croyait dans l'inspiration des Écritures entièrement. Jamais il ne voulait contredire les Écritures. Il est impossible de révérer davantage et d'obéir davantage aux Saintes Écritures que Jésus ne l'a fait. Et lui, c'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur, c'est notre Maître. Donc, c'est comme ça qu'on devrait regarder les Écritures. C'est inspirant, non? Ça me donne le goût de méditer la Bible en disant que Dieu parle-moi. Parce que je veux être comme ton fils Jésus-Christ qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts, qui chassait les démons. Je veux m'asseoir aux pieds de ta parole puis laisser ta parole me parler. Venir m'éclairer. Si vous avez des questions, des commentaires, il nous reste 5 minutes. C'est la première fois que je finis aussi vite que ça. Oui, David, pars-nous sur une balloune.
En fait, c'est plus comme un commentaire dans le sens que dès que nous, en tant que chrétiens dans le monde, et on côtoie souvent des gens qui vont contredire les Écritures, vont tout simplement dire qu'ils ne croient pas que Dieu existe ou qu'ils ne croient pas que le christianisme est vrai. Un peu comme ça s'enseigne dans les écoles aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de notre société, mais nous, on doit être quand même comme Jésus, dans le sens d'aborder la question toujours avec l'Écriture, en ayant comme autorité ultime vraiment l'Écriture. Et plutôt que d'essayer de rentrer dans leur terrain et de répondre selon leurs termes, parce que dès qu'on fait ça, on abandonne d'une certaine façon cette autorité que Jésus nous donne. Avait déjà cette autorité qui est l'Écriture. Donc, de toute façon, un peu comme je parlais à Louise l'autre jour, je disais qu'on ne devait jamais abandonner l'autorité de l'Écriture et qu'on devait utiliser, en fait, que la défense de la foi, l'apologétique, ça nous ramenait à l'étude biblique. Mm-hmm. Vraiment pour connaître les profondeurs, pour savoir... Oui. Que déjà en partant, la personne qui va dire, comme dans les psaumes 14:1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Quand quelqu'un dit ça déjà, on sait qu'il est déjà un insensé. Peut-être pour les gens de l'époque, c'était clair que dans leur milieu, il n'y avait pas question de douter de la parole de Dieu pour les Juifs. Mais pour aujourd'hui, ben, les gens... Ils doutent de tout.
Oui.
C'est un peu ça que...
Oui, il faut arriver avec les Écritures. Là, moi, je vous dirais, là, les deux, juste avant de passer la parole à Wemba, je vous dirais, il y a deux tendances que je vois chez les chrétiens, OK? Il y a ceux qui veulent avoir une approche un peu trop simpliste, puis qui disent, moi, je cite la parole, sans jamais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur auditeur, OK? Sans comprendre la vision du monde de celui avec qui ils dialoguent, eux autres, ils citent les Écritures. À la limite, ça marche, mais tant qu'à ça, tu peux distribuer des Bibles dans toutes les boîtes à mal aussi, ça fait pareil, tu sais. Tu n'es pas en dialogue, tu n'es pas en relation. Jésus, chaque fois que tu vois Jésus arriver avec toute l'autorité des Écritures, il sait très bien, il connaît très bien le raisonnement de son auditeur. Donc, quand il est en dialogue avec la personne, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Vous allez dire, c'est Jésus, je comprends. Donc, d'une part, des fois, je vois des gens qui ont une approche trop simpliste, à mon avis, qui n'est pas charitable, de ne pas essayer de comprendre l'auditeur. La personne à qui je m'adresse, sa vision du monde, ce que tu décris là. Puis l'autre tendance, c'est que plusieurs se perdent là-dedans, à vouloir tellement comprendre l'auditeur, puis comprendre tous ses doutes, perdre leur propre assurance dans les Écritures. Puis là, ils essaient comme juste de « je peux-tu te prendre par la main puis te faire faire un petit pas par ici? » Sans jamais arriver à la fin, arriver clairement avec les Écritures aussi, voyez-vous? Et donc, c'est un équilibre qu'il faut chercher entre les deux. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Wemba, je pense que tu auras le mot de la fin, mon cher.
C'est juste une question rapide. Non, c'est juste une question rapide. Dans Matthieu 4:6, il y a le diable qui dit car il est écrit. Est-ce que ça veut dire aussi que lui aussi reconnaît la véracité et la valeur de la parole de Dieu?
Totalement. Ben, en fait, non. Je veux dire, la déclaration qu'il fait là, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un bon manipulateur qui connaît la Bible parce qu'il essaie de citer les Écritures pour faire de la manipulation. Mais est-ce que le diable croit que la Bible, c'est la parole de Dieu? Ça fait aucun doute. Dans Jacques, par exemple, hein, Jacques va dire, oui, ils connaissent Dieu, ils croient en Dieu, ils tremblent, les démons. Donc, ils sont très conscients de tout ça. Ça serait aller loin de dire que le diable reconnaît l'autorité des Écritures puisqu'il a voulu se rebeller contre Dieu puis se rebeller contre les Écritures. Mais c'est très clair pour le diable que c'est parole de Dieu. Maintenant, ce qu'on peut tirer de ça, par exemple, c'est qu'il ne suffit pas de reconnaître que la Bible est parole de Dieu pour pouvoir lui obéir puis l'honorer. D'accord? Alors, vous allez trouver toutes sortes de faux enseignants qui sont convaincus que ça, c'est la parole de Dieu puis qui enseignent des fausses doctrines. Comme le diable est en train de faire ici, il est en train de faire une fausse doctrine. Brièvement. Mais là, c'est une autre question. Ça ne relève pas de ce qu'il croit. La question de Louis, c'est dans quelle mesure le diable croyait que la Bible, c'est la parole de Dieu, admettons, puis que Dieu est vraiment plein d'autorité. Ça relève plus de la folie du péché. Puis vous avez juste à regarder dans chacune de nos vies. Il y a des péchés qu'on commet. Je vais être grossier un peu. On sait que c'est con. On sait qu'il va y avoir des conséquences. À un moment donné, c'est gars, ça me tente, ça finit là. Victor Hugo, si jamais ça vous tente de vous amuser, là, puis vous êtes un peu curieux en littérature, lisez La fin de Satan de Victor Hugo. Sa description de... C'est imaginaire. Il mêle un peu de mythologie là-dedans, tout ça. Mais sa manière de décrire... Vous pourriez juste aller lire les premières pages de La fin de Satan. Sa manière de décrire le diable est déchu, il a été vaincu, il est avec toutes ses légions avec lui, puis il se lève debout, puis il leur fait un beau discours, puis on a été vaincu, mais on va vaincre, puis on va battre, puis on va gagner encore. Il sait depuis le début qu'il a perdu, puis regardez ce qu'il fait avec Jésus. Ça, c'est la folie du péché. Le péché rend vraiment bête, rend vraiment con, puis c'est ça. Il se croit. Il se croit, même s'il sait que c'est faux. Tu as quelque chose à dire, Samuel?
C'était juste un commentaire.
On a mis quelqu'un au monde.
Si le diable citait Jésus les Écritures, c'est parce qu'il savait que Jésus croyait que l'Écriture était l'autorité.
Oui, c'est ça. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, totalement. Fait que ça se peut aussi qu'il le fasse avec vous. C'est ça que ça veut dire. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, nous voulons te bénir. Te bénir pour ta parole, Seigneur. Seigneur, si je crois que ta parole est parole de Dieu, si je crois que la Bible est parole de Dieu, ce n'est pas par mon propre mérite, c'est à cause de l'œuvre de ton esprit en moi. Tout au plus, Seigneur, j'aurais été comme Louis le mentionnait, comme Samuel le mentionnait. J'aurais peut-être cru, mais j'aurais été rebelle quand même, Seigneur. Et c'est dans ta grâce, si ma rébellion a été brisée, si je me suis humilié au pied de ta croix, Seigneur. Seigneur Jésus, au quotidien, je confesse, je ne vois pas, je n'aime pas, je ne poursuis pas l'obéissance aux Écritures comme toi, Jésus, tu le faisais. Mais je reconnais que ton esprit est en moi et que c'est là qu'il veut me conduire, c'est là que se trouve le véritable bonheur. Alors je te demande, Seigneur, de faire de nous une Église qui aime ta parole, qui croit ta parole et qui marche à la lumière de ta sainte parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.